RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, tout le monde est sur le pont depuis hier soir à Cap-Breton dans les Landes où joueurs et staff de l'équipe de France sont donc rassemblés à l'occasion du stage de préparation pour le prochain tournoi des 6 Nations qui débutera dans moins de 2 semaines maintenant, ce sera à Rome face à l'Italie. Un tournoi qui s'annonce délicat pour les Bleus au vu de l'état de forme de plusieurs de ses cadres car outre les absents nombreux, les présents ne sont pas tous au sommet de leur forme physique. Il faut dire que les cadres des Bleus, ceux qui sont censés nous rapporter la Coupe du Monde dans quelques mois, sont soumis à de véritables cadences infernales. Plusieurs d'entre eux, et pas des moindres, ont dépassé les 1000 minutes de jeu depuis le début de la saison. C'est beaucoup, sans doute trop. Et cela peut-il annihiler les ambitions françaises pour la Coupe du Monde? Les poteaux ouvrent le débat dans un instant avec notre invité, Laurent Arbon, ancien ailier du top 14 et qui, une fois sa carrière achevée, s'est tourné vers le métier de préparateur physique qu'il a exercé un peu partout, notamment en équipe de France. Il est actuellement du côté de Mont-de-Marsan. Il nous dira ce qu'il pense de ce régime copieux réservé aux stars du rugby français. Côté club, vous en doutez, le son de cloche est différent. On entendra à ce propos Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain, qui estime que l'enchaînement de matchs de haut niveau est plutôt favorable aux Bleus, notamment en termes de performance. Et puis on fera le tour de l'infirmerie de l'équipe de France, bien remplie en ce mois de janvier, ce qui va contraindre Galtier à se creuser la tête pour mettre sur pied une équipe capable de poursuivre sa série d'invincibilité. Une équipe qui ne pourra pas bénéficier du renfort d'Emmanuel Méafou, le surpuissant deuxième ligne toulousain, d'origine Samoa, Australo-Néo-Zélandaise, dont on espérait secrètement qu'il obtienne rapidement son passeport français. Eh bien, c'est râpé, c'est raté. On vous expliquera pourquoi dans quelques minutes. Les poteaux, aujourd'hui, ce sont Denis Charvet, lui aussi soumis à des cadences infernales depuis au moins 40 ans. Il enchaîne les émissions sans broncher. Mais jusqu'à quand tiendra-t-il ce rythme? Ça va, Denis?
Jusqu'à quand? Jusqu'à la Coupe du Monde, au moins.
Ah oui, après, derrière, retraite, quand même.
Non, oui.
Ah, il va falloir...
Ouais, pas encore. Tu sais, les retraites, en ce moment, je ne suis pas 65 ans.
Hein. Eh ouais, bon, pas loin, quand même. Tu t'en rapproches.
Pas loin. Toi aussi, tu t'en rapproches.
Et ben, bon, ouais, beaucoup plus jeune que toi, quand même. Également, au micro des poteaux, Manu Massicard, directeur de Midi Olympique, qui, lui, les fait marner.
Déjà la retraite, lui, par contre.
Plus... Ah ben non, mais par contre, ces journalistes, il les fait marner plus que de raison. Hein. Je peux te dire que les 35 heures, c'est en 2 jours qu'ils les font, hein, Midol, non? Salut, Manu.
C'est cela, oui. Nous respectons toute la législation, cher ami. Et j'ai eu très peur quand tu as dit Emmanuel en annonçant. Je me suis vu déjà en équipe de France et puis finalement non, heureusement tu parlais de Emmanuel Méafou.
Ah oui, vous avez pas tout à fait le même physique quand même. Hein.
Ouais, mais non, pas trop.
Pas vraiment. Hein.
Pas trop.
À 100 kilos près.
Ouais, mais il est pas samoan aussi, Manu.
Et un mètre près, on faisait la même taille et le même poids.
Et puis le Montpellierain des poteaux en tournée triomphale cette semaine dans la capitale. J'ai nommé Julien Landry. Salut Julien.
Salut Chris, salut à
salut
tous.
Julien.
Salut Julien. Là.
Ah ouais, je veux dire que la rue de la soif depuis hier est tendu, il n'y a plus de fût de bière.
Il n'y a plus rien.
C'est terminé.
On a fini.
Ça va, Julien?
Très bien, en forme.
Bon, t'as vu de la lumière, t'es entré.
C'est ça, j'ai tapé à la porte, on m'a ouvert gentiment.
On est ravis de t'accueillir, évidemment, pour cette édition des poteaux. Ils sont donc tous arrivés à Cap-Breton. Les derniers à avoir rejoint le groupe, ce sont les 11 Toulousains, ouais, qui ont fait le trajet hier soir après leur victoire en Champions Cup face au Munster. 42 hommes, donc, pour préparer le tournoi. Si le week-end n'a pas fait trop de dégâts au sein du groupe, pas de nouveaux forfaits à déplorer. Les Bleus arrivent un peu mâchés. Toutefois, à l'entame de ce tournoi, il faut dire, Julien, que depuis le début de la saison, ceux qui ne sont pas blessés ont beaucoup joué. Les chiffres, pour certains, sont même hallucinants.
Hein. Ouais, c'était un convoi exceptionnel hier, hein, parce que moi, j'étais à
Montpellier
pour le match Montpellier. Donc, le bus de l'équipe de France était à Montpellier. Ils sont partis en bus de Montpellier jusqu'à Toulouse, où ils ont fait une halte à Toulouse, récupérer les Toulousains. Et les Rochelais étaient également à Toulouse. Donc, il y a eu un grand bus qui est arrivé directement à La Rochelle. Donc, 22 joueurs sont arrivés hier soir en même temps du côté de Cap-Breton. Montpellierain, Toulousain et Rochelais avaient partagé le bus. C'était fort sympathique.
Économise, en raison, ben voilà.
Et pour en revenir, oui, aux joueurs, tu l'as dit, c'est un championnat qui use le championnat de top 14. 11 joueurs appelés dans les 42 ont déjà disputé plus de 1000 minutes depuis le début de la saison, avec en tête Grégory Aldrit, 1242 minutes, dont 13 matchs à 80 minutes. Dans les joueurs très utilisés, on peut citer aussi Anthony Gelonge, Yorem Moefama, Damien Penaud, Thomas Ramos ou Charles Olivon. Antoine Dupont, lui, malgré son carton rouge, malgré la gestion d'Hugo Mola, a disputé 1101 minutes avec 9 matchs à 80 minutes. Donc la preuve que c'est un championnat qui use. Et certains des cadres ont été blessés au cours de la saison. Du coup, leur temps de jeu est un petit peu moindre. On peut penser à Jaminet, Ntamack, Villemcé ou Cyril Bay. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs ont disputé en moyenne une quinzaine de matchs, beaucoup plus que nos concurrents irlandais ou gallois.
Alors, quand ils sont en état, en fait, ils disputent tous les matchs.
Exactement.
Hein, souvent 80 minutes de la rencontre. Hein, c'est
exactement.
Quand même incroyable. Alors, tu en parlais, nos internationaux donc, disputent beaucoup plus de minutes que la concurrence européenne. Surtout que les Irlandais, évidemment, hein, qui, eux, ont un format particulier qui fait que que bah ils arrivent un peu plus frais évidemment à l'entame du tournoi.
Exactement. Si on cite Van der Vlier, meilleur joueur du monde la saison dernière, le troisième ligne, il a disputé 12 matchs pour un total de moins de 900 minutes. 20 joueurs appelés par Fabien Galthié ont déjà disputé plus de minutes que lui. On peut citer aussi Gibson Parks, le 9 irlandais, qui a joué 506 minutes. Seul Bay, Lavo et Cross ont joué moins que lui en équipe de France. Et on peut citer évidemment Jonathan Sexton, longtemps blessé. Lui n'a disputé que 334 minutes, mais il ne sera sûrement pas opérationnel pour le tournoi. Si on compare avec les Anglais, par contre, on est à peu près dans les mêmes temps de jeu, parce que le championnat anglais est un championnat où les joueurs disputent autant de minutes que les Français. 816 minutes en moyenne pour les Irlandais, 850 pour les Français. Itoje n'a pas beaucoup joué, mais c'est vrai que les Français, si on doit comparer avec toutes les nations aujourd'hui, à l'approche de ce tournoi à destination, les Français sont clairement ceux qui ont joué le plus de minutes depuis le début de la saison.
On va bientôt compter en secondes, hein, Denis. À ton époque, ça on comptait pas les minutes. Hein.
Ça allait moins vite, quand même.
Ça allait moins vite.
Non, mais bon, après, chaque époque, ils sont différentes. Mais c'est vrai qu'on va rentrer dans une ère qui est assez compliquée, complexe à gérer. Et puis, étant donné les calendriers, on va en parler. Mais voilà, donc on connaît le résultat à l'avance.
Alors, nos Bleus jouent-ils trop et ces cadences infernales vont-elles être préjudiciables dans notre quête de titre mondial ? Pour en savoir plus, on accueille tout de suite Laurent Arbault. Bonjour Laurent.
Bonjour tout le monde.
Préparateur physique du Stade Montois, après avoir officié notamment en équipe de France à l'époque de Marc Lièvremont et dans plusieurs clubs du top 14. Mmh. Laurent, qui a longtemps été le record même du plus grand nombre d'essais inscrits en top 14.
Tout à fait. Avec beaucoup de temps de jeu aussi.
En temps de jeu aussi ?
Beaucoup de temps de jeu à l'époque.
Chiffre rond en plus. C'est ça, 100 essais inscrits quand même à ton époque. Hein.
C'est ça.
C'est magique ça. T'as été doublé depuis, mais bon, pas par grand monde non plus.
Par Vincent Clerc. Voilà, il y a quand que on est doublé par Vincent Clerc, c'est déjà pas mal. C'est sympa.
Là aussi, Denis, est-ce qu'à l'époque, toi, tu comptais le nombre d'essais que t'as inscrits en championnat?
Moi, je t'ai pas élié d'abord comme Laurent.
J'ai essayé de
faire marquer, mais bon, ouais, non, mais pas le même poste. Laurent était un vrai finisseur. Ouais. Et donc, il avait souvent l'occasion de marquer.
J'en ai vu beaucoup parce qu'il les a marqués à Pau, au hameau. Et moi j'y étais, j'allais le voir.
Ah, t'étais petit,
j'allais voir Laurent Arbault jouer, marquer les essais dans cet immense en but du hameau qui faisait une.
Ah, l'en-but était bon,
c'était magnifique.
Les coups de pied à suivre du demi d'ouverture, t'avais le temps de Philippe Berlatsal s'est aussi régalé de cet en-but si long au stade du hameau.
Et après, il faisait son geste.
Exact.
Les bras en V. Alors, tu es donc aujourd'hui préparateur physique, Laurent. Tu as exercé un peu partout. La préparation physique est aujourd'hui une donnée essentielle dans le sport de haut niveau. On vient de l'entendre de la bouche de Julien, les quatre des Bleus ont beaucoup joué depuis le début de la saison. Grégory Aldrit, notamment, qui est recordman absolu du nombre de minutes passées sur les terrains. Thibaut Giroud, qui est le préparateur physique de l'équipe de France, s'est monté un peu inquiet la semaine dernière quant au temps de jeu des internationaux, notamment du capitaine Antoine Dupont, même si c'est pas lui qui a joué le plus. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter pour toi ? Est-ce que nos Bleus jouent trop, surtout dans une année qui va être très longue et qui va aller jusqu'à la Coupe du Monde ?
Qui joue trop. Quand on parle de minutes jouées, il faut toujours faire attention à ce qu'on y met derrière, parce que minutes jouées, ça veut dire beaucoup de choses et peu de choses à la fois. Un 3 Carrel, par exemple, qui va jouer 1000 minutes, il faut savoir ce qu'il y a dans ces minutes, c'est-à-dire l'intensité qu'il va y mettre, les chocs qu'il va prendre. Pour un ailier, enchaîner les matchs, enchaîner les temps de jeu, c'est pas dramatique. Il faut être capable de le faire récupérer. Ça dépend aussi qu'est-ce qu'il va faire dans la semaine comme travail. Après, c'est vrai qu'il y a des postes qui sont un peu plus exposés et ceux-là, c'est vrai, peuvent poser problème à un moment donné. Quand je vois Aldrit aujourd'hui, les matchs qu'il fait et qu'il enchaîne, oui, on peut se poser la question à quel niveau physique il va être dans 2-3 mois. Pareil pour Antoine Dupont qui est loin de mettre le frein à main quand il joue. Il est très exposé par son poste et surtout par son statut aujourd'hui de meilleur joueur du monde. Donc oui, il y a des statuts particuliers, il y a des physique sur lesquels il va falloir faire peut-être plus attention que d'autres.
Pensez aussi à Paul Willemse, que moi j'ai vu avec Montpellier, qui a été blessé pendant la tournée de novembre, qui a finalement pas beaucoup de minutes depuis le début de la saison. Paul Willemse, 694 minutes, mais il a encore fait 80 minutes hier avec Montpellier, 80 minutes la semaine d'avant. Il en a 3 matchs consécutifs à 80 minutes. Et quand on s'appelle Paul Willemse, on n'est pas ailé. On va au charbon, on fait des percussions. Et physiquement, c'est très intensif pour Willemse.
Et on en revient toujours au même problème. C'est que en fait, les joueurs, jouent beaucoup, sont présents sur le terrain, mais Voilà, qu'est-ce qu'ils font? On sait qu'aujourd'hui, c'est l'intensité qui est de plus en plus importante. Et donc, les matchs sont de plus en plus... ça tape de plus en plus fort. L'intensité est encore plus présente qu'avant. Donc oui, en effet, on monte le niveau des matchs. Et donc, enchaîner des matchs de très, très haut niveau, on sait que c'est très dur à encaisser.
Mais Laurent... Sans parler de la spécificité du poste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi un rapport à la personnalité même du joueur. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont capables de récupérer davantage que d'autres.
J'allais exactement te le dire. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, moi, je vois là, tu sais, le physique, c'est, il y a plusieurs jauges, en fait. On a la jauge qu'on est capable d'avoir dans la semaine. On a une jauge, d'année. Et on a une jauge de carrière, en fait. Quand on voit des joueurs à 25 ans très fatigués, c'est qu'en fait, ils ont cette jauge physique de leur carrière qui est au plus bas, quoi. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est qu'il y a des joueurs qui vont être capables de pouvoir enchaîner des matchs, de pouvoir résister à des contraintes importantes, et d'autres, au contraire, ne sont pas capables, même à 20 ans. Et ça, il faut être capable de l'analyser.
Il y a un cas comme ça, Laurent, d'ailleurs, on le voit, c'est Julien Marchand. C'est-à-dire que Julien Marchand, il est dans l'intensité, il joue beaucoup, et il est hier encore, il a fait 77 minutes, je crois.
Un genou qui couine un peu.
Un genou qui couine les joues. Est-ce qu'on n'a pas peur de ce genre de profil qui peut exploser?
On a peur parce que quand on voit l'intensité des matchs aujourd'hui que le Stade Toulousain va devoir jouer, il y a aussi ce qu'il faut mettre en parallèle aussi, c'est que le championnat devient de plus en plus dur. Avant, il y a 10 ans en arrière, on connaissait pratiquement les 6 premiers. Allez, on savait qu'il y avait 10 équipes qui se battaient pour se qualifier. Aujourd'hui, il y a 12 équipes qui se qualifient, se battent pour se qualifier. Donc en fait, ça va monter le niveau du championnat. Donc tous les matchs aujourd'hui sont disputés. Donc le Stade Toulousain aujourd'hui va disputer tous ces matchs pour pouvoir les gagner, parce qu'elle n'a plus cette latitude qu'elle avait avant. Même si elle a un gros effectif, même si elle sait qu'elle peut gagner partout, mais il va falloir qu'elle y mette les moyens de gagner. Et pour y mettre les moyens, elle sait que si elle a 4 ou 5 joueurs à moins, eh ben ça va être problématique. Et après, à côté de ça, eh ben il y a toujours cette problématique de calendrier qui vient s'entrechoquer entre le championnat et l'équipe de France. Et ça, tant qu'on ne résoudra pas ce problème-là, on aura toujours ces problématiques de joueurs un peu fatigués qui ne seront pas prêts pour un tournoi ou qui seront peut-être un peu plus fatigués que certains. D'autres qui ont la chance, la chance de se blesser 2 mois avant, parce qu'aujourd'hui, c'est presque une chance de se blesser pour se dire « je vais récupérer pour pouvoir être bien ».
C'est presque du bricolage, hein.
Et il y a quelque chose aussi dont on oublie peut-être, Laurent, à parler, c'est les fameux blocs, que les managers raisonnent souvent en bloc. Là, on est sur un bloc en top 14 de 11 matchs. Donc là, on en était au 9e match. Et tu l'as dit, le championnat est tellement dense en plus que tu ne peux plus faire reposer les joueurs sur ces blocs-là. Ouais. Et là, les joueurs, avant de partir en équipe de France, ils étaient sur un bloc de 9 matchs sans se reposer. Et ils voient arriver finalement cette semaine à Cabreton en se disant, il va peut-être falloir refaire du jus, on peut peut-être pas trop s'entraîner pour aussi ménager les corps. Parce que sur ces blocs si longs, avec ces calendriers si denses, c'est compliqué aussi d'octroyer un peu de temps de repos ou de refaire du jus pour ces joueurs premium dont tu as parlé tout à l'heure.
Tout à fait.
Manu, ça va être compliqué de faire des entraînements à haute intensité dont raffole Fabien Galthié là, d'ici le début du tournoi, parce qu'il ne faudrait pas les casser. Hein. Déjà qu'il n'y en a plus beaucoup, il va falloir faire gaffe quand même. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a assez d'expérience dans ce staff et de compétences pour gérer cette question-là. Évidemment que les joueurs jouent beaucoup, évidemment que cette année, les deux dernières années qu'on vient de jouer, sont particulières. On a la Coupe du Monde au bout de la route là, dans 6-8 mois. La projection et la crainte de Thibaut Giroud, exprimée par Thibaut Giroud dans nos colonnes, dans Middle, c'était de se dire, si ça dure, ça va être problématique. Et heureusement pour un garçon comme Aldrit ou pour Dupont que finalement la Coupe du Monde, elle est tout de suite, parce qu'ils ne pourront pas, Laurent en a parlé, hein, il y a ce capital sur la carrière à encaisser des longues séquences et des efforts énormes. Aujourd'hui, ils sont jeunes, mais si on se projette à l'avenir sur une longue durée, ça sera tout simplement impossible et là il y aura de grands risques pour les joueurs.
La seule chance de Galthié peut-être aujourd'hui, c'est d'avoir justement ces 42 joueurs, parce que pour avoir longtemps parlé avec Jean-Baptiste Elissal, quand lui il était avec Jacques Brunel, il me disait que sur ses débuts de rassemblement, des fois il récupérait 23 joueurs, dont 5 ou 6 joueurs blessés, et il faisait les débuts de semaine à 16, ils allaient récupérer les espoirs, les joueurs à 7, il y avait même des joueurs de l'encadrement qui s'entraînaient. La chance aujourd'hui de Fabien, c'est d'avoir ces 42 joueurs.
Oui, mais enfin sur la pelouse ensuite pour le match, c'est souvent
les mêmes
qui sont là.
Non, mais là, c'est-à-dire qu'en début de semaine, il peut peut-être aménager 5 ou 6 joueurs et arriver à faire des oppositions à 15 en ménageant quelques joueurs en début de semaine.
Un garçon comme Grégory Aldrit qui n'a pourtant jamais semblé aussi fort qu'en ce moment, alors qu'il accumule les matchs, Laurent. Mais jusqu'à quand peut-il tenir comme ça? Peut-il disputer tous les matchs dans l'intégralité? Est-ce qu'on demande aussi au staff des clubs de top 14 de les ménager? Est-ce que les conseils du staff du 15 de France sont écoutés par les managers et par les préparateurs physiques des clubs?
Écoutez, oui. Après, reçu et accepté, ouais, pas obligatoirement. Ça dépend toujours à quel niveau est l'équipe à tel moment. C'est-à-dire que dans un mois, moi je suis manager d'un club, l'équipe de France me dit il faut ménager un tel. J'ai dit mais attends, t'es bien gentil, mais moi j'ai besoin de qualifier mon équipe et je suis pas qualifié. Parce que moi, si en tant que manager je qualifie pas mon équipe, j'ai mon président au-dessus qui va venir voir. Forcément. Et donc on en est toujours. Il y a une pression énorme qui est exercée de partout aujourd'hui en top 14. Vous le voyez aujourd'hui, moi on est tous sur les terrains le week-end. On voit des pressions quand même qui sont exercées sur les managers sur le bord de terrain, une pression qui est mise en interne par les présidents, par un entourage, qui se reflète sur les joueurs. Parce qu'après aussi, on parle aussi de physique, mais on peut parler aussi de pression, mentale, hein, qui est exercée, voilà, du résultat obligatoire aujourd'hui. Donc en fait, il y a différentes pressions. Donc oui, on peut écouter les préconisations de l'équipe de France, mais à un moment donné, si on est premier avec 10 points d'avance, on dira ok, de toute façon, c'est pour moi et mon équipe, j'ai besoin de faire souffler tel ou tel joueur. Mais si j'ai besoin de me qualifier dans les deux premiers, eh bien, peut-être que je vais pas trop écouter les conditions et ce que me propose l'équipe de France.
On l'a vu avec Hugo Mola. Voilà, il a été clair.
On va l'écouter dans quelques instants.
Non, mais je veux dire, par rapport au calendrier, par rapport au...
Chacun ses priorités.
Oui, chacun ses priorités, mais on le comprend, on le respecte. Mais encore une fois, on va reparler du calendrier parce que c'est indispensable.
Pourtant, des choses ont été faites quand même. Des choses ont été faites, Manu, depuis quelques temps, depuis quelques années. On a donné la priorité quand même à ce 15 de France. On sait que cette Coupe du Monde, elle est capitale pour l'avenir du rugby français.
C'est l'union sacrée autour du...
On se demande ce qui va se passer derrière, par contre.
Moi, je suis plus inquiet pour la suite parce que là, effectivement, là où les clubs sont quand même somme toute largement sur la réserve et qui collaborent avec l'équipe de France, on peut imaginer que derrière ça sera plus la même histoire.
Ouais. Alors on va écouter les joueurs justement, savoir comment ils se sentent. Cette semaine, Romain Asselin, notre correspondant à La Rochelle, a rencontré deux des stars du Stade Rochelet et de l'équipe de France, Grégory Aldritz et Winnie Antonio, deux garçons qui, malgré leur nombre d'heures passées sur le terrain, se sentent plutôt en forme. On va les écouter tous les deux, Aldritz et Antonio.
Il faut le jouer à fond. On a des plages de récupération, que ce soit pendant le tournoi. Moi, personnellement, j'ai pu couper aussi pendant les fêtes un petit peu. Il y aura des coupures après le tournoi aussi. Donc, bien sûr, il faut jouer ce tournoi à fond. Et voilà, il y aura de la récup après, comme je dis. Il y a une phase de préparation à la Coupe du Monde aussi, qui sera peut-être aménagée plus ou moins dure en fonction des temps de jeu, de la longueur de la saison pour certains. Voilà, il faut faire confiance à tout ça. Pas être idiot, bien sûr, mais il faut faire confiance, que ce soit staff physique des clubs et de l'équipe de France. Moi, je me sens en pleine forme, de fauteuil.
Je pense que les clubs, ils gèrent plutôt pas mal des joueurs par rapport aux années précédentes, mais tous les ans, il y a toujours la fatigue. Il y a toujours un petit période dans la saison où tu as un petit peu de fatigue. Mais quand c'est des gros compétitions comme ça, je pense que la fatigue, il sort de la fenêtre. Tu vois même plus. Surtout quand tu sais que ça peut être une dernière chance à faire une Coupe du Monde ou faire partir de cette équipe, ouais, magnifique.
Voilà, Winnie Antonio et Grégory.
Laurent, c'est pas difficile pour l'international de jongler entre deux préparateurs physiques, celui de son club et celui de l'équipe de France?
Alors, il y a quelques années, ça aurait pu être un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas ces discussions qu'il y a aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'étais à Montpellier, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quand même le staff de l'équipe de France, les prépas qui passaient dans les clubs, avec qui on était en discussion, surtout avant et après le tournoi. On avait le retour des données de chaque joueur sur ce qu'ils faisaient pendant qu'ils étaient à Marcoussis. Donc en fait, on était capable, par rapport à ça, de réguler la charge, nous, de savoir un peu ce qu'ils avaient fait pendant un mois et demi, où on ne les avait pas sur place. Donc aujourd'hui, il y a quand même cette discussion quand même, qui s'est mise en place, et ça, on peut qu'approuver ça, quoi. Donc oui, c'est pas si difficile que ça de jongler. Les joueurs aujourd'hui sont tellement habitués à jongler dans des clubs avec l'équipe de France que voilà. Les méthodes, ça diffère pas non plus trop, quoi.
Ouais, c'est ça. Laurent Arbault, préparateur physique du Stade Montois, ancien préparateur physique au sein du 15 de France, est notre invité aujourd'hui entre les poteaux. Laurent, dans d'autres disciplines, je pense au vélo notamment, les préparateurs physiques arrivent à calculer les pics de forme des joueurs tout au long de la saison. C'est qu'il y a des priorités, des moments importants dans une saison. Est-ce que c'est la même chose en rugby? ou alors justement le nombre de matchs et le nombre de compétitions à disputer fait que c'est compliqué à étudier et à arriver à un pic de forme.
Alors, on essaye de le faire, mais c'est quand même assez compliqué parce que il y a des blessures qui vont intervenir, il y a des méformes de joueurs qui vont intervenir, il y a des calendriers qui sont particuliers. On donne un exemple, si au mois de janvier on avait décidé de remettre un peu de charge de travail, mais que ce mois de janvier on n'est pas dans les clous au niveau comptable, ben ça veut dire que peut-être on mettra pas la charge de travail qu'on comptait faire il y a 6 mois avant pour préparer la fin de saison. Donc en fait, il y a tellement de choses qui vont rentrer en jeu que on part sur un planning un peu idyllique en début de saison et après on adapte à la semaine. Aujourd'hui, on adapte le travail à la semaine, voire aux 15 jours. On n'a plus la visibilité qu'on pouvait avoir avant parce que automatiquement, ben, le championnat est un de plus en plus dur. Que ben, y a des fois, on est capable de dire. Ben, les 3-4 joueurs, là, on va vous faire récupérer un peu cette semaine ou pendant 15 jours. On va vous remettre de la charge de travail pour préparer la fin de saison ou les échéances à venir. Donc, on ne peut pas calculer comme le cyclisme. Je connais pas mal. Le cyclisme, eux, ils ont des retours sur vélo et c'est du travail individuel. Donc, c'est beaucoup plus facile sur les watts de pouvoir travailler sur l'individualisation du travail. Nous, on est quand même un sport collectif. Donc, comme le dit le sport collectif, on travaille ensemble et donc c'est difficile de sortir un ou deux joueurs de ce collectif.
On l'a entendu dans la bouche de Greg Aldrit et de Juni Antonio, ils se sentent en pleine forme. Souvent, les joueurs se sentent en pleine forme, ils ne veulent pas qu'on les mette de côté. Est-ce que ça, vous en tenez compte? Vous travaillez beaucoup sur le ressenti des joueurs ou alors sur les stats que vous avez justement et sur comment vous gérez au quotidien?
Beaucoup, beaucoup. Alors, il faut souvent faire attention à celui qui se dit en forme.
Parce que c'est celui qui est le plus proche de la blessure.
Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Donc en fait, oui, tous les matins, nous, on monitore les joueurs. On a un ressenti de leur sommeil, de comment les courbatures qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, par exemple, j'ai sorti deux joueurs des entraînements parce que pas bien dormi à la maison, fatigué. Donc j'ai dit, on prend pas de risque, on te sort et on va te faire un travail différent de ce qu'on avait prévu avec les autres joueurs.
Mais c'est eux qui te disent ou c'est toi qui le vois?
Ils te disent s'ils sont allés en troisième mi-temps.
Non, mais c'est important, c'est ton ressenti.
Ils ont une application sur laquelle le matin ils se connectent et ils répondent à des questions. S'ils ont bien dormi, s'ils ont des courbatures, s'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils ressentent des faiblesses quelque part? Et par rapport à ça, on dit ok, lui non, mais lui, attention, c'est une pièce maîtresse, on ne va pas s'amuser à le blesser aujourd'hui si on en a besoin pendant X temps. Donc on adapte comme ça et on fait, voilà. Mais on reste toujours, le ressenti est quand même toujours important. Moi, je regarde les entraînements. Je me fie de regarder les entraînements. J'ai le fait d'avoir été un ancien joueur, donc automatiquement, j'ai peut-être un plus par rapport à certains. Ouais. C'est que par la qualité de course de certains joueurs, je suis capable de dire, lui, il est fatigué par rapport à ce que je vois habituellement chez lui. Voilà, dans l'engagement, dans les données aussi physiques, quand on voit un joueur, les datas qu'on récupère des GPS, on est capable de dire, oula, lui, ça fait 2 séances qu'il est en dessous de ses standards. On va aller discuter avec lui. Si on couple ça en plus avec le monitoring de fatigue, là on a le combo parfait. Et donc le joueur, on peut le sortir une semaine.
C'est dingue, c'est la NASA. Quoi.
Non, il va finir à Houston.
J'y suis allé en juin, tu vas voir, c'est sympa.
Les data poussent à l'extrême. Pour aller dans le sens de Laura, à Montpellier, ils font pareil. Et tu peux arriver à voir à la fin de l'entraînement où le préparateur physique va voir des joueurs en disant il te manque 2 courses à haute intensité sur 100 mètres. Donc s'il te plaît, tu fais 2 allers-retours sur le terrain pour que tu aies complété ta séance d'entraînement physiquement à plein. Ils ont les données en instantané aujourd'hui, les datas sont poussées à l'extrême.
Je voudrais poser une question à Laurent sur les datas. Est-ce que les datas aujourd'hui sont incontournables? Parce que on entend tout le monde parler de data.
Elles sont incontournables dans le sens où ça te permet de gérer une charge de travail moyenne du joueur qu'il doit avoir dans la semaine pour pouvoir résister à un match. C'est-à-dire qu'on estime que dans la semaine, il faut qu'il vive tant d'intensité dans l'entraînement, tant de chocs dans l'entraînement, qu'il faut vivre tant d'accélération s'il veut pouvoir réitérer ça dans le match. C'est-à-dire qu'il faut qu'il voit les choses dans la semaine. C'est obligatoire aujourd'hui d'avoir ce ressenti-là et cette charge-là. Après, il ne faut pas être enfermé là-dedans parce qu'en fait il y a toujours l'intelligence du joueur qui va rentrer en jeu et là je vais m'expliquer, c'est-à-dire que c'est pas parce que le joueur court le plus sur le terrain que c'est le plus intelligent sur le terrain. Et c'est même souvent le contraire. C'est oui, souvent les joueurs qui courent le moins parce qu'ils savent se placer, parce qu'ils ont, ils ont de la bouteille, ils savent où aller, ils savent où le ballon va être. Le plus bel exemple, c'est celui d'Antoine Dupont, qui est capable, quand on parle de ministre de l'Intérieur, ben parce qu'en fait, il sent les coups avant les autres.
Ça ne s'invente pas, là.
Hein. Exactement. Oui. Et c'est pas à toi, Denis, que je veux le dire.
Le talent t'étais plutôt là-dedans. C'est un mix, c'est un équilibre, après.
Donc, en fait, bien sûr qu'elles sont importantes, mais il ne faut pas être enfermé et cloisonnée par la data et dire c'est elle qui va gérer tout. Non, elle ne pourra pas tout gérer. Elle va être, c'est une lumière, c'est-à-dire ça va éclairer. Mmh. Ça va éclairer les choses. Voilà.
Ah, il y en a des lumières dans le rugby, ouais. En tout cas. Là,
que là, ça Roscato, il éclairait beaucoup aussi. Hein.
Tiens, je vous propose d'écouter Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain, plus gros pourvoyeur évidemment de l'équipe de France en termes de joueurs, qui pense que les joueurs de ce niveau-là ont besoin d'enchaîner des matchs à grosse intensité pour rester performants, même s'il faut parfois savoir couper. On l'écoute, il est interrogé par Wilfried Templier.
On se rend compte que la barrière des 2000 minutes est une barrière assez juste quand on les enchaîne au niveau des blessures. Maintenant, il n'y a pas de réelles études, des blessures liées en club, en sélection, etc. Donc on est toujours sur une histoire de communication. Ce qui est sûr, c'est que je sais que l'enchaînement de perf est toujours délicate. Donc il faut être capable de couper sur cet enchaînement de match. Mais vous savez, les Irlandais, par exemple, ont un problème complètement différent. Ils ne jouent jamais deux matchs d'affilée à haute intensité. Quand ils arrivent à la Coupe du Monde, il leur manque un truc. Est-ce qu'aujourd'hui, nos joueurs français ne sont pas plus aguerris en jouant des gros matchs de Coupe d'Europe à La Rochelle, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon ou ailleurs? Moi, je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Moi, je pense que le haut niveau appelle le haut niveau, attire le haut niveau. Après, il faut savoir le gérer. Et ça passe aussi par la communication qu'on peut avoir avec nos joueurs et leur état de fatigue, leur état de fraîcheur, souvent mental. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi bien entraîné que ce qu'ils le sont dernièrement.
Voilà, Hugo Mola qui confirme ce que nous disait Laurent Arbault il y a quelques instants.
C'est vrai ce qu'il dit. Je suis d'accord avec lui.
T'es d'accord avec lui?
Ah ouais. Tu penses l'extérieur, faut... de regard extérieur. Ouais. Oui, tout à fait d'accord.
Tu penses qu'il faut enchaîner les
Non, mais il n'y a pas d'études véritables. Il n'y a pas de retour, de retour aujourd'hui. Sur la continuité, tu n'as pas de retour aujourd'hui. Tu n'as pas de véritable étude qui te fait dire si un joueur joue 15 matchs à haute intensité, mais c'est pas bon pour son organisme. Mmh.
Le seul exemple, c'est que les Irlandais n'ont jamais franchi les quarts de finale.
Voilà, ça, c'est un bon exemple.
Pour le coup.
Manu, il faut justement tenir compte de ça, se dire que les Irlandais, finalement, ils sont à côté de la plaque, à peu jouer, à peu faire jouer leurs internationaux.
Ouais, je crois pas. Je crois qu'effectivement, ils ont peut-être un problème d'habitude de regarder ce qui se passe en Coupe d'Europe. Quart, demi et finale, ils savent les gérer et ils sont souvent bien meilleurs que nous. Donc, pour moi, c'est un faux problème. Ils ont certainement un réservoir qui est moins important que le nôtre et moins important que les grandes nations mondiales. Pour moi, c'est ici que se fait la différence. Mmh.
Après, les matchs de Coupe d'Europe, ils ne s'enchaînent jamais, Manu. En général, les Irlandais, ils peuvent faire le quart de finale, reposer leurs joueurs avant la demi-finale. C'est jamais trois matchs consécutifs de Coupe d'Europe.
C'est un bon argument. Ouais. Merci, ils ont aussi de la Ligue Celte, pour lequel, je ne sais plus le nom maintenant, qui pèse beaucoup moins, évidemment. Ouais. Mais quand même, ces équipes-là, elles sont taillées. Franchement, tu le vois sur le tournoi, les Irlandais, quand ils enchaînent deux matchs, ils sont pas non plus les plus mauvais. Bon, je voudrais le voir. Je voudrais voir sur la durée.
Oui, surtout que là, on parle sur les Coupes du Monde. Ça fait tous les 4 ans, c'est pas une stat quand même qui. Ça peut changer.
Pour moi, c'est davantage le réservoir de joueurs qui est important. Hein. Ouais. On est bien mieux armés que eux.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on peut faire.
Parce qu'ils sont limités au niveau de la qualité, man, tu veux dire, Manu.
Ouais. T'imagines s'il y aurait toujours Vincent Moscato qui jouerait chez eux, s'il était irlandais.
Merci Laurent de nous avoir accordé quelques minutes.
Merci à vous.
Ça se passe bien, Mont-de-Marsan. Deuxième toujours de Pro D2, c'est ça?
Écoute, oui, toujours deuxième. On a un gros match jeudi soir du côté d'Oyo.
Ah,
le premier rencontre le second. Donc voilà, on a un gros match à faire. Donc on y va avec des arguments et puis voilà, on va voir comment va se passer la fin de saison. Mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes là. La fin de saison peut être très très intéressante du côté de Mont-de-Marsan. Ouais.
Je vais mettre une petite pièce match nul à mi-temps.
Ça va
cogner là, je pense, les 40 premières minutes.
Ça va cogner,
il va faire froid. Par
contre, froid, plus charmant. Peut-être de la neige même.
Oui, c'est ça.
Merci Laurent Arbault et à bientôt. Bon travail avec Mont-de-Marsan. C'est un plaisir de discuter avec toi. Et on a vu, voilà, regarde des anciens joueurs qui tournent bien, Denis, tu vois. Des mecs qui deviennent intelligents derrière, tu vois.
Ouais.
Hein, il y en a d'autres qui sont contents d'être consultants.
Il y en a qui ont réussi.
On n'a pas dit ça, non, bien sûr.
On n'a pas dit ça, Denis.
Ouais,
non,
on a mal interprété.
Ouais, je ne sais pas pourquoi, il voit le mal
pourquoi
partout.
Pourquoi tu déformes, Denis?
Moi, je suis que trésorier, quoi, en gros. Le trésorier.
Fais pas ton Vincent.
On voit notre Claude Hatchet à nous. C'est vrai que comme lui, t'es à des places. On va revenir à notre équipe de France. Donc, il y a ces 42 qui sont donc en état de s'entraîner, puis de jouer. Il n'y a pas eu de nouveau bobo là,
non,
ce week-end.
Tout le monde est sur le pont. Il y avait quelques joueurs ménagers dans chaque club, mais les joueurs qui ont joué ont tous joué, alors à un niveau différent, mais aucun blessé à signaler pour Fabien Galthié. Il a tout le monde sur le pont ce matin à Cabreton.
Très bien. Fabien Galthié qui a fait dans le classique avec l'annonce de sa liste la semaine dernière, malgré l'absence de 11 internationaux blessés, quand même, ça fait beaucoup. Il n'a pas vraiment ouvert son groupe. Hein. Un seul joueur a découvert les joies d'un premier stage, c'est le jeune ailier bordelais Louis Bialbiaré. Pour le reste,
vous l'avez dit, hein.
Ouais, c'est vrai, on avait parlé la semaine dernière, tu as raison, Manu. Pour le reste, ce sont tous des habitués, même si il y a quand même pas mal de jeunes joueurs qui n'ont pas encore revêtu le maillot de l'équipe de France en match. Est-ce que le temps des découvertes, messieurs, est révolu aujourd'hui? Est-ce qu'il faut complètement refermer le groupe et se passer d'un éventuel OVNI, Manu?
Non, il faut... Je vais te faire une réponse de Normand. Oui, il faut commencer à resserrer le groupe et il faut insister sur ton équipe type et ton groupe type parce que tu as toujours besoin de toujours plus de repères et de confiance et tu as encore besoin de marquer les adversaires, tu as besoin de gagner. Il faut enchaîner les victoires. Après, tu n'es pas à l'abri et il faudra garder ces nouveaux joueurs qui vont arriver jusqu'au bout. Et tu en auras besoin sur la période de préparation physique qui va être très très longue cet été. Et je ne suis pas sûr qu'on reste à 42. Je ne suis pas sûr que au gré des blessures, il n'y ait pas d'autres joueurs qui arrivent. Donc tu devras garder cette carte fraîcheur et il faudra garder le groupe ouvert.
Il faut continuer donc à les motiver, oui. Et à les intégrer. Il faut leur faire peut-être jouer des petits bouts de match. Autrement, ils vont finir par désespérer, non, Denis?
Oui, et puis tu as des joueurs comme Alexandre Romain, Julien Babaz, qui étaient déçus de ne pas y être, mais ce qui est normal aussi. Et quand je vois le match qu'il a fait, la performance d'hier, je me dis qu'il va forcément à un moment donné intégrer ses 42.
Ouais.
Donc, non, mais ça ne veut rien dire. Mais en même temps, quand on connaît un petit peu la politique de Fabien Galthié, il n'y en a pas beaucoup qui vont rentrer. Hein.
Non, mais après, il faut dire qu'il n'y a pas non plus un ovni.
Oui, il n'y a pas un ovni qui se prépare.
Le seul ovni, c'était Emmanuel Méafou, mais qu'ils ne peuvent pas appeler en équipe de France. On en revient,
et Bielbarré qui peut être
et Bielbarré ou du Mortier, voilà, il y a les deux ailiers qui sont d'ailleurs appelés en ce moment, mais il n'y a pas non plus un joueur qui a éclaboussé comme avait pu le faire Jaminet.
Ils en ont vu 60 ou 70 ou 80 joueurs, donc c'est ça. Difficile
aujourd'hui,
d'avoir des surprises aujourd'hui.
Une surprise, on n'en aura plus.
Je suis pas sûr.
Si, moi, je pense que le seul petit jeune qui peut pousser, c'est peut-être à la mêlée, là, le Garek ou Léo Colli, l'un des deux qui peut peut-être être le numéro 3. Non, mais qui peut être le numéro 3 dans la liste des 42 à la Coupe du Monde.
Et là, qui en l'occurrence risque
d'être numéro 2. Alexandre Roumat,
Denis
en a parlé.
Troisième ligne, c'est quand même très dense, la troisième ligne.
Si Alexandre arrive à cocher la case de la vitesse sur laquelle il doit progresser, il n'est pas loin du compte.
Non, il n'est pas loin du compte. Et puis, encore une fois, il va y avoir le tournoi qui va passer dessus. Oui. La sortie du tournoi, on verra.
Et puis, exactement. On ne sait pas que... Si on va pas avoir de blessés, de nouveaux blessés.
Mais oui, c'est ça. Il y en aura certainement. On va pas le souhaiter, évidemment, mais il y en aura d'autres. Hein, donc,
vous verrez, ça va rester ouvert jusqu'à la Coupe du Monde. Et d'accord. On n'est pas à l'abri de surprises.
En plus, en sachant que ce week-end, Fabien va libérer certains des 42 joueurs qui vont jouer en top 14. Donc, on n'est pas à l'abri que ce week-end, sur les 42, il y a quelques joueurs encore qui se blessent et que du coup, tu rappelles encore des nouveaux. C'est sûr que, de toute façon, le tournoi de destination, l'équipe qui démarre le premier match en Italie, c'est pas celle qui va jouer le dernier match en général. Il y a toujours un peu de turnover sur ces équipes-là.
En revanche, une certitude, il n'y aura donc pas d'Emmanuel Méafou, le deuxième Toulousain d'origine Samoa, Australo, néo-zélandaise, dont on espérait qu'il il a plein d'origines, ce garçon. On espérait qu'il obtienne en urgence son passeport français, histoire de l'intégrer avant la Coupe du Monde. Malheureusement, on avait oublié que le règlement World Rugby avait changé depuis un an. Désormais, il faut justifier de 60 mois de résidence dans un pays pour être éligible en équipe nationale. Or, Méafou ne les a pas encore, ces 60 mois. Pour cela, il faudra attendre novembre 2023, ce qui va faire un peu juste pour disputer la Coupe du Monde.
Le problème, c'est que les règlements de World Rugby changent tout le temps. Tous les 6 mois, les règlements changent. Donc, tu sais plus sur quel pied pied dansé.
On se souvient, l'année dernière, il était éligible, mais il lui manquait le passeport.
C'est ça.
Et cette fois-ci, il va avoir le passeport.
Mais alors,
mais il
vous pensez-vous que les Anglais, effectivement, ou les Irlandais vont nous faire un cadeau en nous disant, bah, non, on va avancer la règle à 48 mois, donc on va dire, comme ça, il pourra jouer la Coupe du Monde.
Mais par contre, Eddie Jones, il pourrait passer un petit coup de fil.
On pourrait peut-être les rouler dans la farine, comme Eddie Jones a fait en rejoignant l'équipe.
Et si Eddie Jones, il a appelé Emmanuel Méafou,
alors non, il ne peut pas jouer non plus en équipe d'Australie. Les règles australiennes font que je crois qu'il faut que tu justifies 30 sélections lorsque tu joues.
Mais ça, ils peuvent changer. Les Sud-Africains.
Ça peut changer.
Magito, je vous rappelle qu'il avait été appelé. Alors qu'au départ, il n'avait pas le droit. Ils avaient aménagé les règlements.
Oui, mais ça,
je pense que si Emmanuel Méafou, il est prêt à jouer pour l'Australie, je pense que la fédération australienne, ils peuvent se dire on peut peut-être faire une exception pour Méafou quand même.
Mais ça, c'est juste un règlement de fédération.
C'est ça, exactement.
Donc ça change toute la donne. C'est-à-dire la fédération, elle dit on l'appelle.
Puis,
je ne suis pas sûr. Je crois qu'aujourd'hui.
Si tu fais une deuxième ligne, Méafou-Skelton, tu peux voyager tranquille quand même.
Mais Manu, toi qui connais un peu, qui a toutes les infos, évidemment, tu penses
que. Tu allais me dire le poste de deuxième ligne.
Non, mais c'est un garçon qui a le cœur plutôt français aujourd'hui ou australien ? Enfin, je veux dire, par rapport à son choix.
Bah, aujourd'hui...
Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le sait ?
Il est ouvertement dit qu'il voulait jouer pour l'équipe de l'équipe de
France. Ouais, il est dans une dynamique clairement tricolore, quoi, parce qu'il est en France, il est bien, il est au Stade Toulousain, il s'éclate. Et puis, attends, qui porte la plus belle des promesses si c'est la France, si c'est pas la France ?
Ouais,
tu crois qu'il a des chances d'être champion du monde avec l'Australie, toi ?
Oui, et puis, non, mais en plus, il doit calculer aussi par rapport au poste en équipe de France où il peut prendre la place facilement. Quoi.
Ouais, après, enfin, à sa place. En deuxième ligne, en
faire
Australie,
un attelage avec Skelton, moi, je signe tout de suite.
Hein. Ouais. Oui, en Australie aussi, mais non, mais tu peux gagner plus davantage la Coupe du Monde avec la France qu'avec l'Australie.
Oui. Ah oui.
Mais en 2027, la Coupe du Monde en Australie. Donc il peut aussi se dire jouer pour son pays en Australie, si la France. Il y a plein de questions.
En revanche, il peut être international Samoan. Là, il n'y a pas de souci. Mais bon, là, je pense que.
Bon, là, il ne gagnera pas la Coupe du Monde avec Samoan.
Pour gagner la Coupe du Monde, ça sera compliqué. Très bien, les garçons.
Avec les Tonga, il y a beaucoup d'internationaux qui vont jouer.
Mais il
n'est
pas tongien, là. Non, il est Samoan, là.
Non, mais la Coupe du Monde, j'ai vu que l'arrière, là, australien, allait jouer les Tonga.
Oui, parce que la règle a changé.
La règle a
été choisie pendant 3 ans par ton. Et si ton pays de naissance, tu peux y retourner.
Il y a même des joueurs All Black qui vont jouer le Tonga.
Exactement, c'est vrai.
Tu aurais pu jouer dans quelle sélection en dehors de l'équipe de France.
Si moi il m'avait pris, j'allais avec les Blacks, t'es fou.
T'es rien pour faire le haka.
Même parfois la nuit j'arrivais.
Je
les ai joués, jamais pour gagner. Tu sais.
Pour le Tonga, t'étais un peu juste, mais pour les Blacks.
On a gagné deux fois, mais on les a sûrement. Pas moi. Hein.
Merci les potos, merci beaucoup. La semaine prochaine, on fera un gros focus sur ce tournoi qui débute. Les équipes favorites, l'équipe de France qui a. Peut-être poursuivre sa série d'invincibilité. On vous dira tout la semaine prochaine. Merci Manu, merci Julien et Denis. À la semaine prochaine pour Entre les poteaux.